remue-ménage. Sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue ménage sur Radio Zone 93,8.
Bonjour, aujourd'hui encore, nous vous proposons une rediffusion, mais nous nous retrouverons la semaine prochaine, le premier mercredi du mois de septembre en direct, et nous retrouverons le Festival du Bois de la Bâtie. Aujourd'hui, je vous propose une diffusion de l'émission L'Amazonie de la Baronne Russe, exposition que vous trouvez au Musée d'Ethno à Genève, en compagnie d'Alain Monnier, concepteur de l'expo, et Anne Grossenbacher, réalisatrice de l'exposition. Et puis, tout à l'heure, vous retrouverez à 19h Marjolaine, qui elle déjà vous propose des interviews du festival. C'est l'Amazonie du début du siècle que vous retrouverez, avec une baronne pleine d'énergie, mais aussi des coupeurs de tête, une vision assez épouvantable des Indiens. Tout ça en la compagnie d'Anne Grossenbacher et Alain Monnier. Une expo qui dure encore au Musée d'ethnographie de Genève.
Comme une fugue s'enfuit, comme une pierre polie, une plume se marie sur une feuille blanche nuit. Insomnie. Cette plaie, y a trop de dégâts à cet endroit. Cendrier, petite fumée, univers calligraphié, terros fatigué. Cette plaie, les mots ne sont pas morts, ils saignent encore comme l'encre noire. Comme comme le hasard, comme une lettre dans la mémoire. Derrière les lueurs des petits matins gris, derrière les lueurs des petits matins de plus, je cherche la comme une pierre polie, une plume se marie sur une feuille blanche nuit.
C'était Daniel Fleury. Alain Meunier, vous nous invitez au bal de la baronne russe dans quelques, sous sa tente en Amazonie, ici, à lancer une valse comme ça. Quel est ce mélange étrange d'oiseaux, de valse?
C'est la valse de l'empereur qui va bien avec la baronne. Et puis c'est des chants d'oiseaux enregistrés par un fou, sans doute d'origine allemande, qui allait dans la forêt amazonienne et puis qui enregistrait les oiseaux, qui mixait tout ça après avec cette musique très kitsch.
Et que vous avez offert aux gens qui sont venus.
Voilà, que j'ai trouvé au marché aux puces, comme d'autres choses qui sont dans l'exposition. un vieux champignon, par exemple. Et que j'ai offert pour mon vernissage, oui.
Alors, nous rappelons à nos auditrices et nos auditeurs que nous sommes cet après-midi en compagnie d'Alain Meunier et d'Anne Grossenbacher, tous les deux les artisans de l'exposition que l'on peut voir en ce moment au Musée d'ethnographie de Genève, l'Amazonie d'une baronne russe, avec un sous-titre « Des Andes à l'Atlantique en 1903 ». Donc, c'est à cette époque que nous devons nous resituer avec une baronne qui va se retrouver là pour passer son voyage de noces dans les montagnes, en fait, à l'origine.
Oui, elle est partie grimper sur les Andes avec son mari et deux guides valaisans. Et puis, bon, les circonstances ont fait qu'elle s'est retrouvée en pleine forêt vierge pour finir.
Alors, je ne sais pas si ça arrive encore souvent qu'on décide de partir aux Andes et qu'on se retrouve finalement à faire une grande aventure, puisque pour l'époque, ça l'était. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça le serait encore. Est-ce que vous qui avez étudié, qui avez été en Amazonie, à la manière, est-ce qu'aujourd'hui, ce serait aussi compliqué de faire le même voyage qu'a fait la baronne russe aujourd'hui ?
Oui, c'est toujours assez compliqué. Mais c'est surtout compliqué, comme pour la baronne, quand elle a été pressée. Je veux dire, quand on a le temps, c'est jamais compliqué, c'est même agréable.
Ah, parce qu'elle était pressée, en
oui,
plus.
Oui, son mari devait rentrer, il était convoqué par l'armée russe. C'était la guerre russo-japonaise, disons.
Disons cela. Voilà. Alors, bien sûr, ce que vous pouvez découvrir au Musée d'ethnographie à Genève, ce sont, on vous le dit, peut-être tout de suite, oui, des photos d'abord, des extraits d'un journal de bord, des photos réalisées par la baronne.
Un journal écrit par la baronne.
Et le traducteur, je crois, aussi.
Et
leur
à deux mains, oui, c'est vrai, ou à quatre mains.
Voilà,
avec monsieur Kaufmann, qui était l'interprète d'origine allemande, assez louche, sans doute transfuge, déserteur de l'armée allemande, qui a épousé une dame en Australie, qui s'est retrouvée au Chili, on ne sait pas comment, et qui a réussi à convaincre le baron de se faire payer son voyage de retour en Europe en leur proposant de les guider un peu comme ça.
Voilà.
Et il a dit à la baronne, vous verrez, tout se passera bien, vous voyagerez comme une impératrice en Amazonie.
Et la pauvre a dû découvrir certainement que les impératrices en Amazonie ne vivent pas tout à fait comme celles en Europe.
D'ailleurs, elle se venge de lui dans son journal en se moquant vraiment assez souvent de lui.
Alors, vous nous parlerez de tout ça tout à l'heure. Vous découvrirez aussi, bien sûr, une mise en espace ou une mise en scène. Vous vous souvenez, nous avons déjà accueilli Anne Grossenbacher dans notre studio. On a déjà discuté de cette histoire. Elle s'était déjà chargée de l'aspect visuel et de l'espace d'autres expositions au Musée d'ethnographie ou de l'annexe du Musée d'ethnographie à Conches. Anne, c'est de nouveau une nouvelle aventure dans laquelle vous vous êtes lancée. C'est un tout nouvel espace à découvrir. Ça, bien sûr, la radio ne va pas pouvoir vous le rendre, c'est impossible. Les photos, on ne va pas s'amuser à vous les découvrir, décrire. Les textes, on vous les laissera lire au Musée d'ethnographie aussi. Et puis, l'arrangement, l'espace, on en parlera un petit peu, mais beaucoup plus dans l'idée de découvrir comment la personne à qui on confie une exposition, la réalisation d'une exposition, qui est Alain Meunier, et puis la personne à qui Alain Meunier va collaborer pour réaliser l'exposition qui est Anne Grossenbacher, et bien comment leur rencontre se fait, comment ils discutent et comment ça aboutit à la réalisation finale de l'exposition. Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, surtout de parler ici, puisque l'exposition elle-même, vous n'avez qu'à aller vous-même au Musée d'Ethno pour la découvrir.
Ça, même si elle est payante.
oui, ça c'est nouveau.
Depuis
comment ça
le début
se fait
de l'année, c'est les ordres d'en haut, disons.
Les musées sont pauvres, comme les théâtres, comme les écoles. Enfin, on lime sur la culture partout, y compris on fait payer dans les musées maintenant.
Oui, on espère gagner de l'argent avec ça, sans doute.
Mais ce sont seulement les expositions temporaires qui sont payantes.
Oui, mais alors on nous met un tampon, comme ça, pour être sûr qu'on ne s'enfuit pas de la permanente à la temporaire.
Oui,
c'est bien ça, c'est très, très
fliqué. Mais c'est un joli tampon aussi, c'est Anne qui l'a mis en... Comment est-ce qu'on dit ? En espace ?
Mis en espace.
En espace. Oui, c'est un joli petit timbre que vous pouvez coller, vous avez envie.
C'est un petit
timbre,
une indienne.
Et puis, donc, là, le premier aspect qu'on va découvrir, c'est donc, justement comment on collabore quand on est ethnologue et puis quand on est metteuse en scène ou metteuse en espace.
Comme tu veux.
Maîtrise en...
Oui, maîtrise, oh là là, le féminin, hein. On a le choix. Et puis... Alors, une autre chose que vous ne découvrirez pas non plus quand vous irez voir l'exposition et dont nous aimerions bien parler cet après-midi, eh bien, c'est comment se fait-il que un jour, le musée d'ethnographie de Genève s'est retrouvé en possession de cette série de photos et de ce journal de bord. Comment se fait-il que ce trésor de la baronne russe ait atterri dans les caves, les greniers, je ne sais, parce que je crois qu'il y a dormi longtemps du musée d'ethnographie avant d'être exhumé, extirpé de la poussière pour atterrir sur les murs du musée d'ethnographie. Telle a été votre responsabilité à la Monique.
Oui, on commence par là. Alors
commençons peut-être par là, effectivement.
Par l'année 1952. Alors, c'est la sœur de la baronne, Marie Volkonsky, qui a épousé le prince Volkonsky, qui a offert les albums de photos et les plaques qui étaient à l'origine de ces photos au musée d'ethnographie, ainsi que le journal de sa sœur. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à trouver exactement par quelles circonstances les gens qui ont reçu ça à l'époque sont morts, comme la baronne. Et, bon, c'est arrivé là, puis l'autre partie, c'est-à-dire ce qui concernait les ascensions dans les Andes, est arrivé au club alpin de Lausanne, section des Diablerets. Alors, bon, on a eu la chance d'avoir ces albums de photos. Et qui ont été engloutis un peu dans les caves, les culs de basse fosse du musée pendant plusieurs années. Et puis, c'est pas vraiment. Puis, bon, récemment, non, ça a été redécouvert par le directeur qui savait pas très bien d'où sortaient ces albums, à quoi ils correspondaient, et qui tout d'un coup s'est rendu compte que. Il y avait aussi un livre qui avait été publié par la baronne sur son voyage au Pérou et en Bolivie.
L'Empire du Soleil, c'est ça ?
Voilà, l'Empire du Soleil. Et puis en regardant dans le fichier, il s'est rendu compte qu'il y avait une autre œuvre sous le nom de Meyendorf, donc baronne de Meyendorf, qui traînait, qui était sur les rayons de la bibliothèque, et c'était le manuscrit qui était là parmi les livres.
Mais il faut quand même préciser que si ces objets étaient en Suisse, c'est parce que la baronne Meyendorf, avant d'être baronne, vivait
Suisse.
En Suisse.
Oui. Hum? Oui, elle vivait à B, c'est dans le canton de Vaud, ou du Valais.
Non, de Vaud encore, je crois, oui.
Ouais, j'y suis allé d'ailleurs, mais mes notions géographiques proches sont un peu... Oui, non, elle vivait dans... Son père est arrivé en Suisse dans les années 1880, c'était un chimiste, un spécialiste de la... chaleur des plantes. Bon, lui n'a jamais mis les pieds en Amazonie. Et puis il a installé une maison à baie, un laboratoire, et sa fille, qui était très jeune à l'époque, il devait avoir 2-3 ans, j'imagine. Je n'ai pas trouvé sa date de naissance. Donc a vécu à baie, et son éducation s'est faite dans les montagnes, en quelque sorte. Bon, entre la maison de baie et les réceptions, parce que c'était quand même une famille assez bien placée. Il y avait beaucoup de mouvements, de réceptions dans cette maison, puis les ascensions dans les Alpes.
Donc elle a forgé son désir, sa passion pour l'aventure et les montagnes en Suisse.
En Suisse, oui.
Et elle faisait déjà
de la grimpette et de la photo. Tandis que sa sœur, elle faisait de la peinture. Alors on voit une photo assez drôle de sa sœur sur un sommet dans la neige, au bord d'une crevasse en train de peindre.
Est-ce que pour une femme de ce milieu-là et à cette époque-là, c'était une chose surprenante de la voir grimper sur les montagnes ? Donc on devait être donc la fin du 19e siècle, quelque chose comme ça, hein,
oui,
quand
oui,
elle est gamine,
oui,
encore
oui.
Est jeune.
Moi j'imagine que, par exemple, les Anglaises, les touristes anglaises en Suisse devaient faire déjà pas mal de grimpettes. Non, mais par contre, ses ascensions en Argentine, c'était une première, je crois, pas seulement féminine, mais une première, le Cerro Tolosa. Mais ensuite, je crois que ça n'avait rien d'exceptionnel.
Alors, pour vous, ethnologue Alain Monnier, vous, d'habitude, en tant qu'ethnologue, vous avez plutôt l'habitude d'aller sur place, en Amazonie,
oui,
vous êtes
oui,
allé,
oui.
Pour aller étudier les peuplades. Et là, tout à coup, vous avez dû étudier des photos et un journal de bord pour aller
écouter ces peuples plutôt que ces peuplades.
Oui. Alors, justement, entre ces deux démarches, est-ce que vous pouvez un peu préciser ces deux démarches ? Parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas la façon dont vous avez travaillé que d'utiliser, entre guillemets, la recherche de quelqu'un d'autre, par le biais des photos ou par le biais de textes. C'est vous qui alliez sur place.
Alors, oui, mais on passe toujours par quelqu'un d'autre. On est quand même obligé de lire un peu la littérature anthropologique, même si elle est souvent rébarbative. Mais... bon, là, c'était, avec ces photos, une occasion, en effet, de changer un peu, de plus faire une exposition ethnographique avec des objets, une exposition classique, mais d'avoir le regard de quelqu'un sur, sur ces populations indigènes. C'est ça qui m'a intéressé.
Vous-même, vous avez étudié des peuples en Amazonie.
Alors moi, je suis allé, pas tout à fait dans la même région, un peu plus au sud, mais je suis allé recueillir des mythes. Je me suis intéressé d'un peu plus près aux Indiens que la baronne, qui, elle, les voit vraiment à travers son appareil et sans plus. Alors oui, en même temps, c'était émouvant de voir ces photos des débuts du siècle avec des gens que j'aurais, enfin des gens comme j'ai pu en rencontrer.
Parlez-nous un tout petit peu plus de votre travail autour de recueillir des mythes, quand même, qu'on puisse confronter votre expérience, vous personnelle, avec ce que vous avez découvrir au travers du regard de la baronne.
Bon, ce qui m'intéresse quand je vais sur le terrain, que ce soit en Amazonie ou en Nouvelle-Guinée, c'est qu'on me communique la tradition orale, enfin les mythes qui sont les fondations même de la vie sociale et qui se transmettent donc oralement dans ces sociétés. Pour moi, c'est le seul moyen d'entrer vraiment dans intérieurement dans la manière dont ces gens vivent. Alors bon, c'est un contact qui s'est toujours fait, qui s'est toujours bien passé, parce que moi aussi j'ai raconté des mythes. Je veux dire, bon, j'ai échangé quelque chose. C'est peut-être plus facile avec des mythes d'en raconter que pour autre chose. Bon, moi ce que j'ai raconté, c'est toute la mythologie grecque, qui est la mythologie qui m'est le plus proche finalement. Et bon, alors j'ai recueilli surtout des mythes de catastrophes, des mythes cosmologiques, des mythes, des histoires drôles, enfin des tas de choses.
Et vous, contrairement à la baronne, par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous avez pris votre temps.
Donc, oui, puis je les ai recueillis dans la langue et ensuite je les ai traduits avec des gens sur place qui étaient bilingues, parce que presque tout le monde est bilingue, malheureusement. Heureusement pour les ethnologues, mais...
Et vous n'étiez pas de passage, contrairement à la baronne aussi? Ça nécessite de rester,
ça nécessite,
s'installer, de rencontrer des gens.
Ça nécessite du temps, oui.
Donc ça, je crois que les gens peuvent s'imaginer ce que c'est que le travail d'un ethnologue, mais ce que ça veut dire de rencontre, concrètement, c'est difficile à s'imaginer, tout à fait, par rapport à des peuples qui vivent en plus dans des conditions climatiques, atmosphériques, d'espace, où les distances sont énormes, où le mode de vie est complètement différent, où tout ça, ça transforme quand même beaucoup l'approche et la rencontre, j'imagine.
Oui, mais je crois que je m'adapte bien, sans vouloir jouer à l'Indien, je me suis toujours bien débrouillé.
C'est ça, donc ça ne nécessite pas de jouer à l'Indien.
Non, surtout pas, je crois qu'il faut, le moindre des respects quand on va là-bas, c'est de montrer qu'on est soi-même, qu'on a aussi sa propre culture et pas vouloir faire comme les autres, enfin comme les gens qu'on va trouver.
Alors je lisais dans l'introduction faite par Louis Necker, donc l'actuel directeur du musée d'ethnographie de Genève, à propos du livre qui a été édité sur cette exposition, L'Amazonie d'une baronne russe. Louis Necker disait, aujourd'hui on se trouve un peu dans la situation absurde où ça vaut plus la peine d'aller sur place. Parce que les choses ont été trop bouleversées, les personnes âgées, les vieux porteurs de la tradition sont morts ou meurent trop vite. Les gens qui sont encore aujourd'hui ont leur vécu tellement bouleversé par la modernité, etc. Finalement, on est obligé de se pencher sur ce qu'ont vu d'autres gens à d'autres moments et utiliser d'autres sources que celles d'aller sur place. C'est un peu ce que vous avez fait à propos de cette exposition-là. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette observation ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette observation. On aurait pu dire ça la même chose en 1903, que c'était déjà trop tard, mais en même temps, bon, ces photos sont là. Et puis les gens que j'ai rencontrés, c'est vrai que les conditions de vie sont devenues assez difficiles. Enfin, ça date de quand ? De la conquête, ça fait 500 ans, 5 siècles. Mais finalement, en tout cas, les mythes sont toujours là. Et les mythes, eux, s'adaptent. Je veux dire, c'est ce qui fait leur richesse, c'est qu'ils tiennent compte aussi des nouvelles choses qui arrivent et qu'ils parlent de nous aussi et qu'ils se moquent de nous aussi. Et je crois que ça, on peut... Ça reste finalement plus vivant que... Bon, ben, les objets, c'est vrai que des beaux objets, comme on en récoltait au 19e siècle, ça se fait plus. Maintenant, la plupart des temps, ces groupes ethniques font de l'artisanat pour pouvoir survivre. Alors c'est vrai que de ce côté-là, ça n'a plus tellement d'intérêt.
Mais par exemple, la sœur de la baronne qui a confié les photos et le journal de sa sœur, était-elle consciente que ça représentait un témoignage important pour les ethnologues?
Non, pour elle, c'était la grande aventure de sa sœur, une aventure extraordinaire où elle a failli mourir, c'était l'héroïne de la famille, un point, c'est tout.
Mais alors pourquoi elle le confie-t-elle à un musée d'ethnographie et pas un journal qui aurait pu en raconter comme un scoop, à la limite, je ne sais pas hein, comment voir la différence. Elle ne confie pas à n'importe qui.
Bon, je pense que c'est par personne interposée qu'elle est entrée en contact avec le musée d'ethnographie et qu'elle dit « oui, pourquoi pas ». Mais là, je ne sais pas, il y a quelques lettres, un peu de correspondance, mais où elle commente d'ailleurs le journal de voyage de sa sœur, mais sans parler vraiment justement des Indiens.
Est-ce que vous savez si aujourd'hui les gens continuent à remettre comme ça des documents, des objets au musée d'ethnographie, comme ça des démarches individuelles type...
Non, ils peuvent le faire, ce serait
ça
bien.
Ça existe. Ils le font, bien sûr.
Non,
ils
mais
le font. Beaucoup, je crois.
Mais avec conscience, par contre, puisque vous le savez, ces gens-là, vous les rencontrez, bon, la sœur de la baronne, c'est difficile de savoir aujourd'hui quelles étaient ses intentions, mais quand les gens aujourd'hui remettent des choses au musée d'ethnographie, par exemple, ils le font dans quel esprit, Anne?
Mais je crois qu'ils le font dans le sens où eux se rendent compte qu'ils sont en possession d'un patrimoine et puis ils sont souvent pas capables de l'exploiter et puis ou ils ont simplement pas...
Bon, ce qui marche le mieux, c'est les cahiers d'école, c'est vrai. C'est l'exposition de Conches, non?
Ou c'est de la concurrence ou c'est de la publicité.
La publicité. Oui, non, puis je crois qu'ils sont très fiers, effectivement, de le confier au musée. Et pour que ce soit exploité, montré, utilisé, je crois qu'ils sont très très contents. Puis effectivement, ils retrouvent un objet qui a appartenu à leur mère ou grand-mère dans une exposition. Ils sont très très touchés.
Non, c'est sûrement le cas pour l'Europe. Pour l'Amérique, les gens cherchent plutôt à vendre des collections.
Oui, oui, non, effectivement, je pense qu'il y a...
Non, mais il y a aussi des dons.
Des objets d'ordre tout à fait différents.
La baronne a rapporté deux petits sacs, ils sont sur l'inventaire, deux petits sacs en fibre, mais que j'ai pas réussi à retrouver.
Disparu dans la poussière. Parce que, alors justement, on disait, on a exhumé un peu ces photos des greniers ou des caves du musée. Est-ce à dire que le musée d'ethnographie est vraiment aussi riche qu'on le dit? Parce qu'on a beaucoup parlé du musée d'ethno qui est enfermé dans ses murs trop petits, qui est tellement désolé de ne pas pouvoir montrer tout ce qu'il a. Est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de trésors comme ça, cachés dans les greniers et les caves?
Oui, partout, dans les greniers, derrière les radiateurs. Partout. Non, il y a des trésors qui sont répertoriés, bien répertoriés, pas toujours fichés, mais répertoriés.
Oui, parce que comme vous nous avez raconté tout ce
qu'on a... Non, des découvertes comme ça sont relativement rares.
Hein. Oui, parce que ce que vous nous racontiez sur comment petit à petit, sur un rayon, sur un truc, sur un autre, on a réussi à reconstituer tout ce qu'on possédait.
Piste,
voilà.
Ouais.
Ça n'arrive pas tous les jours.
Non, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses.
Ouais.
Parce que ne serait-ce que le livre qui est en fait le premier numéro d'une collection qui s'appelle donc Sources et témoignages.
Bon, ça, c'est exprimé un grand espoir.
D'après ce que j'ai compris,
oui,
il y a d'autres choses de ce type-là qui ont justement jamais été...
Il semble qui
mériteraient d'être publiées, d'être montrées.
Il semble qu'il y ait un recueil de mythes du Grand Chaco, donc en Argentine, en Suisse allemand, qui est passé sous les yeux de M. Necker un jour.
Puis au niveau photographique, maintenant, il y a tout un travail sur le fonds photographique du musée.
55 000 photos seraient en possession du musée,
exactement, donc c'est absolument énorme. Ça veut dire que c'est effectivement, ne serait-ce qu'au niveau photographique, c'est vraiment un trésor qui n'avait jamais été exploité, parce que jusqu'à maintenant, il y a peu de choses
qui sont faites avec les
photos, par exemple. Puis bon, sans compter les réserves. Quoi. Moi, ces temps, je me promène un peu dans les réserves. Ouais. Mais je suis complètement hallucinée de voir les trésors qui sont dans ces réserves. Puis je demande depuis quand ces objets sont là. Et on me dit qu'ils sont là depuis 50, je ne sais pas. Ça fait depuis 100 ans que ces objets n'ont pas été montrés. Personne ne les a vus. Donc ils viennent directement de pays lointains et personne ne les a encore vus. C'est complètement fou, quoi.
Donc il y a en ce moment peut-être au musée d'ethnographie de Genève l'envie de faire un peu ressurgir tous ces trésors qui ne sont pas forcément l'objet d'études immédiates, concrètes d'ethnologues qui travaillent à Genève ou ailleurs, mais qui ont été donnés, transmis, on ne sait pas plus très bien comment peut-être depuis toutes ces années. Ou bien c'est un hasard le coup de la baronne.
Non, moi je crois pas que c'est un coup particulier. Je crois pas que c'est un hasard, je crois que c'est un travail. Je crois que dans le musée, effectivement, il y a des tas de choses et que les gens, petit à petit, les étudient, les répertorient et les montrent. Je crois que ça sera toujours le travail de... Je crois que dans...
Puis quand il n'y en aura plus, on exposera les conservateurs.
Oh ben d'ailleurs, il y en a qui s'exposent déjà, si j'ai bien vu, à la fin de l'exposition sur la baronne.
Je ne suis pas conservateur.
Ça, c'est un petit gadget qu'on vous laissera découvrir vous-même. Voilà, alors un petit peu de musique avant de passer à cette deuxième partie de notre conversation. C'est, bah, voilà, une fois on vous a confié ce travail à Alain Monnier et vous vous êtes associé, ou on vous a associé, je ne sais pas, à Anne Grossenbacher pour réaliser cette exposition, L'Amazonie d'une baronne russe.